passe qui sont là. Je pense qu'on doit être imaginatif, surtout en 2004, pour vaincre ces problèmes-là et pour aider la population.
Merci beaucoup, Mme Samson.
Moi, j'aurais deux souhaits très rapidement. Le premier, qu'on arrête de penser en termes de crise, mais qu'on se dote d'une réelle politique de l'habitation au Québec, une politique nationale. Et secondo, qu'on enchasse dans notre charte le droit au logement pour que tout le monde ait un toit, public ou privé, mais un toit et un réel toit.
Oui, ça, je suis d'accord. Le droit au logement, je pense que ça devrait. Parce qu'il y a des solutions ponctuelles,
c'est ça.
Mais il faut voir à long terme.
Il faut voir à long terme. Ouais, là, depuis quelques années, on est juste braqué sur le court terme. On l'a sur le bout du nez, mais
on met des diachylons.
On met des diachylons.
And Dr. Farquhar, who's dealing with a population that is a lot more problematic sometimes in order, like, to get housing and stuff, what do you think could be a solution to actually help people who are in the street, especially if they have difficulties? Oh, maybe. He's not online anymore. It doesn't really matter. So, merci beaucoup à tout le monde. Et,
merci à toi.
Merci.
Et merci de vous avoir gelé avec nous pendant quelques minutes. Plus que quelques minutes, et nous passons à une pièce préenregistrée. Nous vous revenons dans 5 minutes. Merci beaucoup.
You're listening to
the issue of youth and homelessness has become more prevalent in Nelson recently. Joyce Dawn, coordinator of youth services for Nelson Community Services and the co-chair of the Nelson Committee on Homelessness, has joined us to speak about this issue. Good morning, Joyce.
Good morning, Deb.
So, youth and homelessness in Nelson, it's been an issue for a while. Let's start with, when did the Committee on Homelessness, when was it formed?
Well, officially, the Nelson Committee on Homelessness formed in 2001. Before that, Nelson's had various forms of committees to discuss homelessness, lack of housing in Nelson, way back to probably the 70s. And because federal money was available in 2001 from the National Homelessness Initiative, a committee was formed to specifically address the need so that Nelson could get some money.
So more specifically, what what did you find out about youth and homelessness in our community?
We had money to do two research grants, and one of those, the Roofs for Youth Project, which was sponsored by West Kootenay Boundary Addiction Services, specifically looked at youth in the West Kootenay and looked at the various communities, Nelson being one. And I don't think a lot of new information to those of us that work in the area came out, but clearly there is an issue of homelessness for youth in Nelson. We're lacking services. We don't have an emergency shelter. We don't have any sort of short-term place where folks can go. And youth face more barriers than adults do when it comes to being homelessness. They don't, or being homeless, they don't have the references to bring with them. They don't necessarily have the presentation to a landlord that an adult would. So they come with a whole host of extra barriers.
One of the perceptions in Nelson is that homelessness and youth is of there's more of a problem here than in other communities. Is that correct?
Yes and no. I think it is out there in other communities. I think in the summer months, Nelson attracts more of a transient population, but really we're talking about local youth. Kids that, for whatever reason, can't be at home, have left home and then faced unemployment and can't find that affordable place to live. Nelson's rents, if anyone knows and is out there in the market, they're high.
They are very high, compared to other communities. That's for sure.
Yeah.
So there's different kinds of homelessness, Joyce.
Mm-hmm. There's, what's termed as relative homeless or absolute homeless. And often people think of the absolute homelessness. So they think of the cities and they see people on the streets. It's visible. We don't have as much of that, although certainly in the last 5 years we're seeing more of it. What we have is the relative homelessness. So we've got kids or young people couch surfing, living just sort of right on the edge where they could lose their apartment at any time, or there's too many people having to crowd into a small one-bedroom apartment, spending more than, 50% of their income on rent, those kinds of things. So we certainly have a high amount of relative homelessness in the area.
So what are some of the reasons that youth become homeless?
Oh, there's a whole host of them. I mean, one is just lack of employment. That is huge in this area. Lack of affordable housing. Lack of family supports that, they have to get out of the home. There's nowhere else for them to go. And depending on their social skills, some can sort of move in with themselves without anywhere to be.
Now, there's going to be a huge change in government services. There was a bunch of people that are going to be taken off
off of the benefits, mm-hmm. BC benefits rosters in April. Will that affect youth?
Definitely will affect youth. Underage youth, it won't affect. The two-year clause that they've got within the welfare system doesn't affect youth until they turn 19. So our really vulnerable youth, that sort of 17 to 19, that clock of 24 months doesn't start ticking until they turn 19. So they won't be affected. The fear is ones that sort of went on to assistance right at 19. If they've been on 2 years, they're now 21. If nothing's happened for them. So, you know, they're still classified as youth, and a lot of youth can be, I don't know if it keeps going, I'll be a youth again soon, but sort of up to 30 people often classify individuals as youth. So mm-hmm. we are expecting a number of people to be hit.
Yeah. Yes, yes. So what is the Nelson Committee on Homelessness doing to address some of these issues?
Well, Nelson's been fortunate to be selected as a Skippy community, which was a specific pot of money supporting community initiatives.
Positively?
Partnerships.
Oh, partnerships.
Somewhere in there. Supporting community partnerships initiative. And there was only, I think, about 15 communities in BC selected. This is a federal program, so it's across Canada. And they looked at communities that had a high rate of unavailability of rental situations, low, lots of unemployment. So Nelson is the smallest community, and we've been fortunate to have money, and we're just in our second round of money. So we received approximately $400,000 the first time around. Our Daily Bread, which is the Daily Soup Kitchen, received some funding. The Food Coalition to run the Food Co-op Cupboard, and Ward Street Place receive some funding, as you know,
yes.
And so for the purchase of the building. So this time around, we've received another bunch of money, about $400,000 again, and $57,000 some odd was specifically earmarked for youth. So the federal government is recognizing that there is a problem across Canada and they need to address it. So we're right in the letter of intent stage, so we don't know what projects will be funded this time around.
So there are other, you mentioned our Daily Bread coming to the aid of people who are homeless. Are there other community groups or individuals who are really actively involved in this issue?
I think there's a number of people that have a passion about homelessness. Certainly some of those people come to the table on the Nelson Committee on Homelessness. Other people are doing their bits in the community, giving donations where they can. Halo Hampers tries to help out a lot, or does a lot at Christmas, Salvation Army. So there's a number of groups, and definitely the need is growing.
Mm-hmm.
Yeah.
Mm-hmm. And what is the next step? What are some of the next steps that the committee is taking?
Well, the next step immediately will be to get through the application phase and get some of those dollars into our community and get some projects going. And then the big buzzword these days is sustainability. Federal dollars, we've been told this is the last round. And so how do we keep these projects going in our community and how do we sustain them?
Mm-hmm.
So that's a big task for our committee to look at that.
Would you happen to know if the Youth Center has provided a lot of support for young people in this area?
Definitely the Youth Center, I think, is a kind of a hub in some ways that especially new kids to the community will ask around and they'll wind up there. They're fairly limited in what services they can provide to youth because we don't have a shelter to direct them to.
Mm-hmm.
You know, so as far as they've had some great employment programs out of the Youth Center, they've been able to assist some of our local youth in getting those skills they need and gaining employment so that they can enter the rental market.
Mm-hmm.
And just a place to go and get some directions on other services in the community for folks that could assist. But our big challenge is, where do we send these young people, without a roof over their head?
Mm-hmm. Yeah, it is a huge issue,
mm-hmm.
and one that we'll talk a little more about. And I thank you for coming in this morning, Joyce.
Thank you, Deb.
That you were listening to Joyce Doms. She's the coordinator of youth services for Nelson Community Services and the co-chair of the Nelson Committee on Homelessness.
Hello, welcome back to the Homelessness Marathon. You are listening to CKUT 90.3 FM in the streets of Montreal, where it's really, really cold right now. The sun is down, it's getting colder and colder. I've been here for an hour. Let me tell you, we understand the homeless people wanting to be out of the streets. Alors, bienvenue de retour au Marathon des Sans-Abri. Vous écoutez CKUT 90,3 FM, la radio de McGill, et nous sommes en direct des rues de Montréal. Vous êtes peut-être aussi en train d'écouter d'un bout à l'autre du Canada. Donc, maybe you're listening anywhere else in Canada. Maybe you're listening to CJSW from the University of Calgary, or maybe you're listening to CFUV from University of Victoria. So we have people everywhere listening to us. I hope you're enjoying the show. We still have 13 more hours to go in the cold streets of Montreal. So if you want to reach us because you have commentaries or anything to say, you can call us at the toll-free number 1-866-763-4136. I'm repeating, 1-866-763-4136. If you have questions for any of my guests or if you have commentaries to what someone might be saying, you can call us. Alors, si vous voulez nous contacter parce que vous avez des commentaires ou encore des questions pour mes invités, vous pouvez le faire au numéro sans frais 1-866-763-4136 ou 1-866-763-4136. Alors, bienvenue, mes chers invités. Je vais faire un tour de table rapidement pour expliquer qui est ici. So I'll do a little like round table so that people understand who is with me and what they're doing and why are they here in the cold. Alors, je vais commencer avec Stéphane qui vient de la Maison du Père. Il participe à un programme de réinsertion sociale.
C'est exact, oui.
Alors, tu peux peut-être nous expliquer un peu rapidement c'est quoi la Maison du Père pour expliquer pourquoi la Maison du Père est venue se geler ici.
Donc, oui, tout à fait. La Maison du Père est un refuge qui accueille présentement 115 hommes âgés de 25 ans et plus. Outre l'offre de l'aide d'urgence, qui est à dire un lit pour la nuit, un repas et du linge, ils offrent également un programme de réinsertion sociale qui a quelque chose de particulier, c'est-à-dire que c'est pas une thérapie, c'est vraiment pour viser à responsabiliser la personne itinérante qui désire sortir de la rue, la responsabiliser afin qu'elle puisse avoir un logement et subvenir elle-même à ses besoins.
So I'm just going to translate right away. Stéphane is part of the Maison du Père, which is an organism here who is doing social reinsertion, and he's in one of those programs. And that specific like housing unit, if you want, has over 100 men every night going there in the refuge. And also they serve food, they clean, also they exchange clothes that I know of. And Stéphane is in the reinsertion program. And basically the reinsertion program, which is different from other organizations, is that it actually is not based, for example, on detox or something like that, but really based on empowering the person, and making sure that these people, that the person is actually going to be able to be living on their own once they're out of the house. C'est bien expliqué en anglais?
Très bien.
Fantastique. On parle justement d'empowerment, de réinsertion sociale. J'ai avec moi Audrey Côté, qui est rédactrice en chef du journal L'Itinéraire ici. Alors, bonjour Audrey.
Bonjour. Bonjour.
Peut-être nous expliquer un peu, justement, on parle de réinsertion, un peu ce que le journal fait.
Mm-hmm. Bien, le journal, en fait, articule la réinsertion sociale.
C'est brouillant, hein?
Le journal L'Itinéraire favorise la réinsertion sociale des personnes de la rue de deux façons. D'abord, dans la production du journal L'Itinéraire, qui permet aux personnes de la rue de prendre la parole, c'est-à-dire de s'exprimer, mais évidemment par l'entremise du journal. On est donc un journal école pour les gens de la rue. Et ce journal-là est vendu également dans les rues de Montréal. Ce journal-là est vendu...
Désolée, on a des petits problèmes techniques, ça fait qu'il y a peut-être des choses qui s'entrecroisent parfois.
Ce journal-là est vendu dans les rues de Montréal, 2 $, et permet à des gens issus de la rue d'avoir une alternative à la mendicité concrète.
ce qui est une des raisons d'ailleurs quand on parle justement des personnes sans-abri qui reprennent le pouvoir, si on veut, du média. C'est une des raisons aussi pour lesquelles l'itinéraire a décidé de participer à ce marathon-là, de l'organiser, parce que ça fait exactement partie du même mandat qu'on a, par exemple, au journal, de redonner la voix, si on veut, aux personnes sans-abri.
Tout à fait. Bien, le simple fait de prendre la parole est vraiment significatif dans le en ce qui concerne l'empowerment pour les gens de la rue. Donc, nous, les professionnels qui encadrons les gens de la rue, c'est-à-dire moi-même comme rédactrice en chef et mon adjoint à la rédaction, on a vraiment pour mission de faire en sorte que cette parole-là soit lue et entendue par le plus grand nombre.
Donc, répéter en anglais, ça dérange pas. So I have Audrey Côté here, who is editor-in-chief of the street paper here, which is called L'Itinéraire in the Streets of Montreal. It's sold in the streets of Montreal, and it's also made partly by people from the street. It's a school paper, if you want, where street people can actually learn how to take back the media and how to actually write about their own lives, but also about society in general and the way they actually see it. So it's basically one of the main reasons why L'Itinéraire decided to co-produce, if you want, this marathon, because it is the same kind of need that we have to give a voice to homelessness, to give a voice to people who usually do not have a voice. So welcome. Nous avons Sonia Scarcella, qui est intervenante au pavillon Patricia McKenzie, qui est le pavillon des femmes du Old Brewery Mission. Alors, bonjour Sonia.
Salut.
Peut-être expliquer un peu, premièrement, pourquoi le Old Mission a besoin d'un pavillon pour femmes, et aussi qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pavillon-là?
Bon, mais là, c'est sûr que la raison pour laquelle il y a besoin, parce qu'il y a des femmes itinérantes autant qu'il y a des hommes, peut-être moins autant, je ne connais pas les statistiques, mais... ce qu'on fait, bien, c'est offrir les services de base parce que, bon, comme tout le monde, besoin, ils ont une place à coucher, au chaud, pour manger, pour se laver. Puis on leur offre des références là, parce que, dans le fond, ça prend une place qui accueille justement les. Parce qu'itinérants, ils ne couchent pas tout dehors. Puis dans les métros, il y en a des places, mais.
Ils sont très restreintes.
Oui,
ils sont,
oui, sont restreintes. Puis je pense que nous, comme on travaille, on est pas mal un des peu de centres à Montréal qui accueillent tout le monde, presque.
Puis qui accueille les femmes.
On collabore avec les CLSC, avec les polices de Montréal, puis il y a toutes sortes de problématiques. Je peux pas dire qu'il y a plus de santé mentale ou toxicomanie. C'est très majeur. Il y en a que c'est partiel, il y en a que ça fait super, super longtemps. Puis, fait que c'est offrir un peu de réconfort, finalement, aux gens de la rue.
Puis, en tant qu'intervenante, qu'est-ce que tu dois faire exactement au pavillon? C'est quoi ton rôle?
Bien, mon rôle, c'est ça. C'est de les accueillir, les aider, leur répondre à leurs besoins, premièrement, voir qu'est-ce que le besoin est majeur, les référer dans des centres. Parce que, bon, nous, on a beaucoup de monde. On n'est pas comme des travailleurs sociaux ou qui va prendre beaucoup de temps avec une personne, on leur donne les références à... On va voir des tels rendez-vous, on va voir au CLSC, des endroits où aller tout simplement passer la journée, parce que nous, c'est un centre de nuit, à 8 heures le matin, la plupart des femmes sont dehors dans la rue. Puis on leur dire que tu peux aller là, il y a des centres de jour, puis tout ça. Là. Pour l'instant, c'est le besoin de base. Fait que mon travail, c'est les réconforter.
Bon, OK. Puis on a aussi...
Jacques Brochu, je suis journaliste de la rue. Je suis là par solidarité. Jacques Brochu, I'm here... as a street journalist and by solidarity.
And I'm just going to translate really fast. Like, Sonia Scarcella is actually, a social worker, I guess is in English. Similar?
Yeah, similar without
paper.
It's
not exactly, yeah. It's a social worker without the paper. That's good. We're working with people without papers a lot of time anyway. It doesn't matter if we don't have the papers. And she's working at the Pavillon Patricia McKenzie, which is the women's part of the Old Brewery Mission, if you want. And it's on Maisonneuve, near here, actually.
Yes.
It's just right down the street. Yeah, and she's taking care of homeless women, but also like making sure that they have references, that they have places to go if they have different problems, with their health problems, like mental illness problems. And she's dealing with these people every day. So our panel is basically like with people who are dealing constantly every day, either with the fact that homelessness exists because they are homeless themselves, or because the fact that they are working with homeless people. So, donc nous, tous nos intervenants ici présentement sont des gens qui soit sont dans la rue, donc ils connaissent très bien. C'est les personnes de première ligne, finalement, pour expliquer ce que la rue est, ce que la rue, à quel point la rue peut être difficile, mais aussi des intervenants qui travaillent avec les gens de la rue à tous les jours et qui voient les différentes problématiques et qui voient les différents problèmes. Quand on a entendu, par exemple, la ministre Bradshaw qui parlait justement des différentes initiatives qui ont été créées, quand on parle de différentes personnes, soit des personnes politiques comme Mme Samson ou encore des personnes comme François Thivierge qui travaillent à comprendre les problématiques dans une ville, ou encore qu'on parle à des personnes qui travaillent pour le logement, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, ça fait une heure que les gens parlent. Qu'est-ce que vous pensez de la problématique, mais concrètement? On parle beaucoup de recherches, de choses comme ça, comme par exemple les dernières recherches qui avaient été faites il y a 5 ans qui disaient qu'il y avait au-dessus de 28 000 personnes qui utilisaient les différentes ressources et qu'il y avait, à travers ces 28 000 personnes-là, environ de 12 000 à 13 000 personnes qui étaient considérées sans domicile fixe, donc itinérantes. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres-là? Est-ce que vous les voyez tous les jours? Et quelles sont vraiment les problématiques, tu sais, comment, dans la rue comme telle, la vie, la vraie vie, pas seulement les idéaux, mais la vie difficile, comme par exemple présentement, juste s'habiller assez chaudement pour ne pas geler pendant la nuit?
Oui, tout à fait. C'est que une première chose que j'ai remarquée du milieu de la rue, quand je m'y suis retrouvé, souvent c'est que on a l'idée d'un itinérant, bon, 50aine d'années, la plupart du temps sous, à côté contre une poubelle ou du genre. Puis la réalité, c'est que ces 28 000 itinérants-là, hommes, femmes, adolescents et personnes âgées, ben c'est pas très peu, je trouve, reflète vraiment l'image de l'itinérant classique. Puis, en parlant de préjugés, avant de rentrer à la maison du père, j'ai eu vraiment une crainte. Je voulais pas y aller. Donc, au bout de 2 nuits, je me suis décidé à y aller.
Donc, même toi, même les préjugés sont difficiles, oui. Même à l'intérieur même de la rue.
À l'intérieur même de la rue. Puis aussi, vu que c'était mon premier contact avec le milieu de la rue. Puis aussi, c'est que c'est le poids des préjugés personnel qu'on entretient face à la rue, quand on s'y retrouve, bien là, ça nous accable encore plus. On se trouve encore plus diminué. Quand on se rend compte, quand on fréquente ces gens-là, bien finalement, j'ai rencontré des notaires, j'ai rencontré toutes sortes de gens, puis ça correspond vraiment pas à l'idée qui est généralement admise de l'itinérance.
So, Stefan here is talking about the fact that one of the main problems in dealing with homelessness are prejudices, like the fact that we consider a homeless person, for example, being an old man who's drunk on the side of the street, but that actually, when it comes down to it, and when we're dealing with people who are homeless, and when we become homeless ourselves, it's really hard to get out of those stereotypes, of these ideas, preconceived ideas that we have about homeless people. Justement, en parlant d'idées préconçues, on a une intervenante ici qui doit connaître ça.
Oui, bien, c'est sûr, mais c'est parce que, comme Stéphane disait, ça me fait penser, parce que avant que je travaille avec les itinérants, j'ai travaillé dans une clinique privée où ça coûte beaucoup, beaucoup de sous pour se faire soigner, puis il y a toutes sortes de problèmes.
Ah, mais ça
n'existe
pas ici, ça.
C'est ça. Et bon, en tout cas, on va passer à autre chose. Non. Mais, puis ça me fait penser, c'est vrai que souvent, on a cette image-là. Ah, ils sont dans la rue, ils sont alcooliques, ça pue, ça nanana. Puis beaucoup de gens le disent, puis c'est méchant comme ils pensent. Puis en allant travailler avec ces gens-là, là, je trouve ça le fun de me dire, ben non, c'est pas vrai, ils puent pas, là. Ils se lavent tous les jours, je les vois, là. Moi, j'aime bon, les prendre dans les bras, puis c'est comme, hey, salut, puis t'es là pour les aider, pas pour les juger, puis de toute façon, comme, je pense que au début de ta question, c'était de ce que ça prend, puis c'est sûr que, bon, probablement qu'on en parle, en en parlant, ça peut ouvrir les yeux, mais la réalité, c'est un peu difficile à atteindre, malheureusement, parce que je pense que ça prend beaucoup, beaucoup d'argent, c'est plate à dire. Là,
mais... Puis on le voit pas non plus souvent. Les sans-abri sont souvent cachés. Il y en a certains qu'on voit. On voit souvent la marginalité extrême. On voit souvent la marginalité, comme les personnes avec des difficultés, que ce soit de santé mentale ou quoi que ce soit. Ou encore, on parle beaucoup du squeegeeisme présentement. Donc, on voit les gens qui sont beaucoup plus voyants. Mais l'itinérance qui est cachée, il y en a beaucoup plus qu'on pense. En fait, il y en a. La majorité, ce n'est que la pointe de l'iceberg qu'on voit. Puis quand on voit, par exemple, je ne sais pas, quand on travaille, par exemple, à l'itinéraire, où on voit vraiment différents degrés, en fait, d'itinérance, mais aussi différents degrés de personnes en problématique.
Tout à fait. Bien, moi, je pense que, En fait, les gens, nous, qu'on aide à l'itinéraire, au journal itinéraire, sont davantage des personnes qui sont sans domicile fixe. Elles ne sont pas nécessairement, du moins, elles ont déjà entrepris des démarches pour se stabiliser en logement.
Sortir de la rue.
Et pour la plupart, souvent, elles vont avoir, ce sont des personnes, comme je dis, qui sont davantage sans domicile fixe. Et donc, ce dont on parle très peu, justement, en ce qui concerne les personnes de la rue, c'est qu'elles ont aussi beaucoup d'idées, beaucoup d'humour. Et nous, c'est ce qu'on tente de mettre en valeur par le biais du journal itinéraire. Évidemment, moi, je pense que lorsqu'on a une raison de s'en sortir, c'est beaucoup plus facile. Le journal itinéraire existe depuis 10 ans pour permettre aux gens de la rue d'avoir accès à un savoir journalistique, d'avoir accès à la possibilité aussi de se réinsérer par le biais du journal.
Oui, I was just talking with Sonia and after with Audrey, who are two people who are working with homeless people, asking them like what Stefan has been talking about, which is like, you know, preconceived ideas. And Sonia was telling me that before working, she was working in a private clinic, should we say, which are not supposed to exist in this city. and how, like, it was a preconceived idea that, you know, maybe these people were dirty and all that, and working with them, not only did she realize that that was not true, but that they had a lot to bring also. And, you know, so much that she's freezing herself right here in order to just solidarity. And Audrey was telling me that also, like, in the street paper, the difference is that you have different levels also of homelessness. And for example, in the paper, often people are more considered that they don't have a fixed place to live. Like, they usually will go from one place to the other because they have usually gone one step further in their steps towards, like, not being homeless anymore. But also, like, I'm gonna ask them, like, it needs a lot of help also. Like, you cannot just, like, yourself just decide, like, you know, like, I'm gonna get out of the street if you have a, you know, mental illness or something when you think about it. Alors, qu'est-ce qu'on parle, par exemple, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand quelqu'un, tu sais, on dit, on essaie de s'aider soi-même parfois, tu sais, pour réussir, comme Stéphane, toi-même, t'es allé, puis t'es allé à la maison du père, tu sais, Jacques essaye aussi, tu sais, comme fait différentes façons pour s'en sortir, mais c'est pas évident. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, quand on est dans la rue, puis qu'on a un problème de santé mentale, ou qu'on a un problème grave de consommation, ou qu'on a un problème d'identité, ou encore de, tu sais, comme de lien social, comme par exemple, souvent les jeunes marginaux vont avoir un, tu sais, comme une raison d'être dans la rue qui est différente, par exemple, d'une personne de 60 ans qui a beaucoup moins de ressources. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez une différence?
Bien, moi, en tout cas, moi, je vois des gens de 18 ans, puis j'en vois de 60 ans, puis j'en vois de 70 ans, puis je trouve ça tellement triste. Je me dis quand même, une madame, genre de 70 ans, peut être tout seul, démunie, puis qui ne sait pas trop où aller, puis qui prend beaucoup de médicaments, puis qui les a avec elle. En tout cas, c'est pas... des fois, c'est pas toujours comme évident, là, ce qu'on peut voir, là, mais... comme je dis, il y a toutes sortes de monde. T'sais. Il y en a que c'est vrai qu'il y en a qui vont bien et puis qui sont une étape de leur vie. Puis, la santé mentale, malheureusement, ça existe. Puis, ils sortent de l'hôpital. Nous, comme on travaille avec les CLSC, on va essayer de communiquer. Bon, CLSC va entrer, parce qu'on n'est pas des médecins. Je ne suis pas médecin. Tu peux regarder une personne, tu peux dire oui, elle souffre de santé mentale, mais je ne peux pas évaluer comme un médecin. Je dis oui, je pense que. Fait qu'on travaille avec les CLSC. Des fois, il y a aussi des urgences psychosociales qui traînent dans la rue, viennent, puis c'est exprès s'il y a une crise ou s'il arrive des choses. Mais c'est compliqué, ces choses-là, parce que là, tu rentres dans un détail, c'est les droits de la personne, puis tout ça, tu peux pas juger. Elle est santé mentale ou est comme ça, même si des fois, on pense que les faits sont... C'est un grand sujet, là, je trouve ça, rentrer dans
même les ambulanciers peuvent être surpris de voir que des gens sont au courant du programme urgence psychosociale, puis vont dire, mais c'est supposé d'être secret, ça.
Mais c'est ça, secret, mais dans le fond, ça devrait pas, comme...
Justement,
il faut que les gens disent, bon, mais, tu sais, arrêtez, ben non, ça n'existe pas, tu sais, ça se peut pas, mais ça se peut, tu sais, puisque, tu sais, les gens, on sait... soit comme de mettre ça grand plus pire que c'est, ou bon, on veut pas le voir, tu sais, mais...
C'est ça, parce que ce qui est triste, c'est que, comme vous l'expliquez, il y a des problèmes de santé mentale dans la rue. On a de la difficulté à évaluer si c'est un problème de santé